Nous lisons aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, à la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5, donc à partir du verset 32 du chapitre 4, chapitre 4 verset 32 jusqu'à 5 verset 11. La multitude des croyants était parfaitement unie, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des terrains ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettait aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui veut dire celui qui console, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Mais un certain Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit en accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Il garda, avec l'accord de sa femme, une partie de l'argent et alla remettre le reste aux apôtres. Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il envahi ton cœur ? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par le terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi. Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas ? Comment donc as-tu pu décider un tel projet en ton cœur ? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis ils l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda : « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour telle somme ? » Et elle répondit : « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit : « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de délier l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte, et ils t'emportent, toi aussi. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Toute l'église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. Luc est l'auteur du livre des Actes. Et c'est en quelque sorte le tome 2 de son œuvre d'évangéliste. Dans le Nouveau Testament, dans ce livre-là en particulier, Luc présente à la fois l'état de développement embryonnaire des jeunes communautés soudées par la foi au ressuscité et les différents débats qui secouent parfois ces églises naissantes. Le livre des Actes dit à la fois l'union bien réelle, solide, la vraie cohésion de la foi nouvelle et aussi parfois, dans ce chapitre et dans bien d'autres du même livre, les cassures que risque cette communion. C'est lorsque nous relisons les Actes que se pose le plus nettement la question : qu'est-ce que c'est qu'une église ? Et la lecture de ce livre donne des réponses étonnantes et font douter que nos églises soient tellement plus avancées que celles que Luc décrit dans les commencements du christianisme. On voit mal pourquoi elles seraient plus avancées. À vrai dire, on y trouve les mêmes questions d'organisation, les mêmes problèmes, les mêmes affaires disciplinaires, les mêmes côtoiements culturels compliqués, les mêmes difficultés à affronter un monde qui, décidément, fonctionne autrement, avec un entêtement agaçant. Tout pareil, quoi. Au commencement du livre, après le lancement du mouvement pentecôtiste, dans le sens de relatif à la Pentecôte, évidemment, nous tombons, c'est le cas de le dire, sur cet étonnant récit d'Ananias et Saphira. On apprend à cette occasion que l'une des préoccupations principales de cette communauté des débuts est la solidarité, le partage. C'est manifeste dans les derniers versets du chapitre 4 qui précède notre texte du jour. Et il faut traduire correctement d'ailleurs ce passage qui nous dit « De temps à autre, ceux qui possédaient des biens les vendaient, en apportaient le produit et le déposaient aux pieds des apôtres. » Donc il faut se garder d'y voir quelque chose qui était prescrit de manière systématique et qui aurait été appliqué un jour ou l'autre de cette manière. Ces mots ont permis à certains lecteurs de conclure à une sorte de communisme originel, consubstantiel au christianisme, dès ses premiers pas. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, à vrai dire, puisque les lignes que nous avons lues, même si elles donnent le contexte qui précède, évoquent surtout un don volontaire, une quête dans un but de partage assez comparable à l'esprit de la manne dans le désert. Personne ne doit manquer de rien. On est un peu loin des vagues de nationalisation autoritaire ou d'une abolition massive de la propriété. Ceux qui vendaient des biens le faisaient volontairement au profit de la communauté. Et puis, il faut peut-être éviter de projeter sur un texte qui met en scène une communauté sémitique avec des mélanges culturels et sous domination romaine et plaquer sur ces sociétés ce que nous avons fait bien longtemps après de ces textes. N'oublions pas le « de temps à autre » qui montre une générosité spontanée, occasionnelle, plutôt que l'obéissance aveugle qu'on trouve dans une secte qui dépouille ses adeptes. Mais il y a quand même les faits. Voici qu'Ananias et Saphira décident de faire autrement. Il est important de comprendre qu'ils ne dérogent pas à une règle parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de règle d'obligation de donner ce qu'on possède. Mais ils trahissent l'esprit dans lequel il faut faire ce don. Tout est là. Ils font effectivement un don volontaire et comme il s'agit de la vente d'une propriété, on peut estimer que ce qu'ils apportent au pied de l'apôtre est assez important, peut-être considérable même. Seulement voilà, ils ont décidé de garder une petite poire pour la soif. Après la pomme d'Adam et Ève, voici la poire d'Ananias et Saphira. Si vous devez manger 5 fruits et légumes par jour, ça vous en fait déjà 2, bande de vénards. Et encore, en regardant partout, même sous les tapis, on devrait bien trouver 1 ou 2 allergiques au fructose. Donc tout le monde n'en profitera pas. C'est bien dommage. Mais si nous quittons le rayon frais de la supérette, il nous reste quand même ce geste en apparence valorisé socialement. Il faisait ce que les autres faisaient, et le fruit de cette vente était considérable. Mais ce geste est rendu dévastateur parce qu'il masque un mensonge, une duplicité, une rupture avec l'esprit communautaire qui les soudait tous. Ananias s'approche avec le fruit de la vente. Alors là, ça nous fait 3 fruits, hein, on se rapproche de la quasi-perfection. Il se présente devant Pierre qui lui demande alors « c'est pour un dépôt ou pour un retrait ?» Et Ananias annonce crânement « non, non, c'est pour un gros dépôt. » La confrontation commence avec dans l'air une vibration comme celle qu'on trouve dans les plus célèbres scènes de Western Spaghetti. On sent que ça va barder. « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et retenir une part du prix de la terre. Ce que vous aviez ne vous appartenait-il pas ? Bon, ça confirme qu'il n'y avait pas d'abolition de la propriété. On est toujours chez les disciples de Jésus de Nazareth et pas encore chez ceux de Joseph Proudhon. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas qui possède qui et qui dépense quoi, et si on a assez donné, bien sûr, c'est la question du mensonge au Saint-Esprit. On sent bien, quand on entend l'expression, dans n'importe quelle traduction d'ailleurs, hein, qu'on ne peut pas se contenter de l'écoute, même attentive, même en se la répétant plusieurs fois, de ce bel exemple de patois de Canaan. Le Saint-Esprit, si on en croit Luc, dans ces quelques lignes, n'a pas forcément de rapport avec les doctrines qu'on a inventées au fil des siècles pour évoquer ce sujet ou cet objet fuyant. Troisième personne de la Trinité, vent puissant planant au-dessus du chaos initial, remplaçant invisible d'un Jésus lui aussi disparu, hein, c'est l'esprit consolateur cher à l'évangile de Jean, etc., etc. On sent bien que dès qu'on parle de lui, le tangible va faire défaut. Et pourtant, il se passe bien quelque chose ici pour que deux personnes tombent raides mortes. Quelque chose d'assez grave pour que deux personnes le paient de leur vie. Il y a bien une ligne qui n'aurait pas dû être franchie. Mentir, c'est atteindre l'intégrité de quelque chose ou de quelqu'un. C'est introduire une espèce de cassure dans quelque chose qui tenait juste avant, d'un seul bloc, d'un seul tenant. C'est plus grave qu'une simple dissonance qu'on finit par oublier, bien plus insupportable qu'une fausse note qu'on pardonne facilement. C'est plutôt un vacarme qui recouvre tout, on n'entend plus que lui. L'action est d'autant plus grave que c'est concerté entre Ananias et Saphira. Elle a donné son accord à ce mensonge qui, même à deux, est déjà un mensonge collectif. Il forme déjà une communauté dans la communauté. Leur acte n'est pas individuel, c'est une manipulation de la communion, de la confiance commune. C'est cela qu'ils abîment. C'est une brèche dans la confiance qui assurait la cohésion du groupe. Nos traditions théologiques ont retenu au sujet du Saint-Esprit des définitions parfois compliquées, parfois souvent même vaporeuses, en pensant bien faire, en pensant faire sérieux, plus c'est obscur, plus c'est profond, ou si vous préférez, abscons comme la lune. Le Saint-Esprit, finalement, là-dedans, ça n'est rien d'autre que le ciment de confiance qui les faisait tenir. Le mensonge de nos deux anti-héros a enfoncé un coin dans ce ciment et commencé à déceler les pierres de leur vie commune. De l'union à la division, on comprend pourquoi Pierre évoque Satan, figure par excellence du diviseur. La sanction, bien entendu, c'est la mort. C'est toujours la mort, d'une certaine manière. Une forme ou une autre de mort, de disparition. C'est la perte de quelque chose de précieux qu'on ne peut pas remplacer tout à fait. C'est l'objet abîmé qu'on ne peut pas réparer sans grimacer parce que le résultat est moche. Les traces de colle se voient tellement qu'on se demande s'il faut garder le vase dans ce triste état ou le balancer une bonne fois pour toutes. Cette confiance entamée, c'est la foi abîmée qu'on n'est pas certain de retrouver intacte ou pas certain de retrouver tout court. C'est ça qui est mort, ou menacé de mort. Une communion difficile à obtenir, et nous savons que nous avons du mal à obtenir une communion. Une communion finalement obtenue par eux, portée à bout de bras, et finalement fracassée par deux imbéciles. Et les imbéciles, parfois, c'est nous. Si la crainte s'empare de la communauté au verset 11, tout à fait à la fin, c'est parce qu'il mesure, à ce moment-là, la puissance destructrice de la non-confiance. Même une courte éclipse suffit à leur faire peur, et on les comprend. Le langage de la peur, on le sait, n'est pas bon conseiller, d'une manière générale. Mais s'il y a une seule chose que nous pouvons avoir raison de craindre, c'est de voir se fissurer le ciment qui nous tient. Si la crainte de perdre quelque chose d'aussi précieux peut nous être utile malgré tout, c'est peut-être que par moment, elle peut nous aider à renforcer une authenticité collective. Elle peut nous aiguillonner assez pour nous maintenir dans une unité que nous n'avons pas établie nous-mêmes, mais dans laquelle nous avons tous été accueillis. Ce n'était pas une possession, une propriété ou le fruit de notre travail. C'est parce qu'elle est donnée que nous répondons, nous aussi, par un don volontaire, pas par un système qui oblige. Celui de notre temps, par exemple, et de notre engagement. Tant que nous veillerons à la qualité du lien qui nous tient, nous ne mourrons pas. Ce n'est pas la crainte de la mort ou de la perte qui doit ressortir de ce texte, c'est plutôt la perspective de voir nos engagements sincères annoncer l'évangile reçu comme il se doit, tranquillement, sincèrement, en nous demandant seulement comment vivre de ce don et de partager ce don avec d'autres, sans souci excessif de la manière dont les autres nous voient. Et ça, je crois, c'est amplement suffisant. Amen.